Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde. Nous allons prier pour recommander l'écoute de la parole entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci de te révéler à nous. Merci de nous parler, Seigneur. Comme nous venons de lire, Seigneur, nous voulons recevoir ta parole comme étant, Seigneur, celle qui agit en nous et qui nous transforme, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que ton esprit puisse convaincre nos cœurs et que ta volonté soit faite pleinement dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Luc au chapitre 18. Luc 18. Nous lisons à partir du verset 9. Luc 18, à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. » Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc ça, c'est un des principes qui régit la vie chrétienne, c'est savoir s'abaisser, et s'abaisser devant les hommes, surtout s'abaisser devant Dieu. Et ce n'est pas l'objet de notre partage. Alors on nous dit que deux hommes montèrent au temple pour prier, donc entrer dans la présence de Dieu. Et on nous dit que le premier, un pharisien, dit à Dieu, il prie, hein, il dit, Seigneur, debout, je rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et il va même à se comparer à celui qui est à côté de lui, comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de mes revenus. Et on nous dit que le deuxième, c'était un publicain. Il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus nous dit une chose très importante. Il dit que c'est celui-là, ce dernier, qui a été justifié. En quelque sorte, dans les critères de Dieu du salut, si on prend la vie de deux hommes, bien aimé, vous voyez, ce que nous sommes en train de dire là est très profond, puisque en apparence, c'est la vie du pharisien qui est correcte, puisqu'il n'est pas adultère, puisqu'il ne ment pas, puisqu'il ne vole pas, puisqu'il est correct, puisqu'il va même au-delà de ce que Dieu demande. Il jeûne deux fois la semaine. Ce n'était pas obligé, ce n'était pas une obligation ça. Et il dit même, je donne la dîme de tout, mais il n'était pas obligé de le faire. Donc théoriquement, cet homme coche toutes les cases pour attirer la faveur de Dieu. Et on nous dit à côté, il y a un homme qui est loin de ce que Dieu attend, puisqu'il se reconnaît lui-même comme étant pécheur. Et curieusement, lorsque Jésus rend la copie, vous savez, quelquefois, lorsque tu fais un contrôle, tu es sûr de toi. Tu es tellement certain que là, le contrôle, j'ai cartonné. Mais vous savez, la Bible dit que ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. C'est celui que Dieu recommande. En quelque sorte, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui corrige la copie, c'est pas toi. Puisque toi, quand tu fais le contrôle, tu vérifies. Vous savez, parfois, le contrôle est tellement facile, tellement abordable. L'examen est tellement abordable qu'en trois quarts d'heure, tu as fini. Et, vous savez, tu prends le temps de... Et parfois même, il y a certains partiels à la fac où on vous dit interdiction de sortir avant 1h30. Donc, en 30 minutes, tu as fini. Et, vous savez, à ce moment-là, tu vérifies les fautes d'orthographe, tu vérifies si tu as bien... Mais pour toi, tu estimes que le travail est parfait. Mais vous savez, quand la copie vient, parfois c'est 12 sur 20. Parce que le prof, il a ses critères à lui. Et là, Jésus dit que c'est le publicain qui a été justifié, l'homme pécheur. Et ce texte-là, il m'a toujours intrigué, puisque je me dis, mais logiquement, mais normalement, bien aimé, nous omettons un paramètre très important. Le thème de notre partage, pour ceux qui notent, c'est pécheur sauvé. Pécheur sauvé. Qu'est-ce que nous voulons dire ce matin? Bien-aimés, vous savez, les gens iront en enfer, puisque la Bible parle du lieu de jugement qui est prévu dans Matthieu 25 pour Satan et ses anges, les démons. La Bible en parle. Il y aura un jugement, certainement. Et on nous dit que dans ce lieu-là, iront ceux qui ont refusé Dieu. Moi, ce que je veux dire ce matin, bien-aimé, c'est que les gens iront en enfer, non pas parce qu'ils sont pécheurs, mais parce qu'ils refusent Dieu. Je veux m'expliquer, puisque quand on... Donc le péché est bon, non, c'est pas ça. Puisque Jésus est venu sur la terre, pourquoi ? Pour sauver le pécheur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Puisque cet homme était comment? Il était pécheur. Et nous allons voir quelques exemples qui nous montrent des gens qui étaient pécheurs. Des gens qui étaient pécheurs, mais que Dieu a sauvés par Jésus. Je veux insister là-dessus, bien-aimé, sur le fait que les gens, ils n'iront pas en enfer parce qu'ils sont pécheurs. Ils iront en enfer parce qu'ils refusent la grâce, l'offre de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Le jugement, il sera à ce niveau-là. Puisque si les pécheurs doivent aller en enfer, dans ce cas, la Bible dit quoi dans Romains 3, 23? Que tous... donc on est tous au même point, hein, on est tous égalitaires. Donc si c'est ça le critère, Psaume 130 nous dit que si, je crois le verset 3, si tu gardais en mémoire le souvenir de nos iniquités, qui pourrait, oui, j'ai entendu un mot là, timidement là-bas dans le... Qui pourrait subsister, même pas être sauvé, hein, mais si Dieu tenait compte de nos péchés, qui pourrait subsister? C'est-à-dire qui pourrait garder le souffle? C'est-à-dire que tu pèches tout de suite. Vous savez, si Dieu donnait le pouvoir de jugement aux humains, je peux vous dire que ça serait le carnage, hein. Si Dieu te donne 30 secondes le pouvoir de devenir Dieu, ah, tu règles le compte de tous tes cousins qui sont restés en Afrique, toutes les tantes, tu règles en une seconde, tu règles le compte de tout le monde. Psaume 130 nous dit, si tu tenais compte de nos iniquités, qui pourrait subsister? Les gens iront en enfer, non pas à cause du péché, mais parce qu'ils refusent Dieu. Et c'est là que Dieu va les juger, en disant, oui, puisqu'il y a des gens qui disent, je suis trop mauvais, j'ai fait trop de mal. Oh, tu sais, Jean-Luc, moi, ma vie, moi, tout ce que j'ai fait de mal, je ne pense même pas que Dieu me supporterait. Bien-aimé, c'est de l'orgueil. C'est pour ça que nous avons lu ce texte-là, qui nous dresse le décor de notre partage. Cet homme vient à Jésus, à Dieu. Il dit, Dieu, si je me tiens devant toi, je ne peux m'attendre qu'à une chose, c'est ta miséricorde. Puisque moi, je suis un homme pécheur. Et c'est ça que Dieu attend de chacun. La conscience que nous avons le péché en nous. Vous voyez la différence avec le pharisien ? Le pharisien compte sur sa bonté et sa justice et il estime être premièrement supérieur à tous les autres puisqu'il dit que je ne suis pas comme les autres hommes hein, qui sont ravisseurs, adultères. Et il dit même, je ne suis même pas comme ce pharisien. Et deuxième chose, cet homme, par ses bonnes œuvres, sa vie, il prétend ne pas avoir besoin de Dieu, de la grâce de Dieu. Et bien aimé, c'est ça qui va amener le jugement des humains. Estimer ne pas avoir besoin de la grâce de Dieu. Nous lisons, on fait un aparté, Jean 3,16, que nous connaissons. Jean 3,16. Donc le thème, c'est pécheur sauvé. Jean 3,16. Lisons ce que le Seigneur nous dit. Car Dieu a tant aimé les hommes, le monde, pardon, dans ma version, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alors, lisons ce qui est écrit au verset 18. Celui qui croit en lui n'est point, mais celui qui ne croit pas est déjà, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On peut continuer. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien-aimés, voilà ce que nous dit la Bible. On nous dit que Dieu a envoyé son Fils, il a tant aimé les hommes qu'il a donné Jésus. De sorte que celui qui reconnaît qu'il a besoin d'être sauvé, qui reconnaît son état et qui se confie en lui, celui-là a la vie éternelle. Et on nous dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il nous dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Bien-aimé, je voudrais qu'on comprenne ce principe-là ce matin. Vous savez, le diable va nous faire croire que nous sommes trop mauvais. Le diable va nous faire croire que nous sommes allés trop loin, tellement loin que Dieu ne peut plus rien pour nous. Bien-aimés, c'est ça le mensonge. Vous voyez cet homme ? Alors, moi je suis curieux, puisque quand je lis ce passage de Luc 18, 9-14, je suis toujours curieux de savoir, de me dire, mais est-ce que le publicain entendait la prière de l'autre ? Vous savez, quelquefois, lorsqu'on prie entre nous, surtout dans les églises de réveil évangéliques, où il y a l'autre prie, Alléluia, au nom de Jésus, parfois tu entends la prière de l'autre. Hein. Fire, le fou, le feu, envoie-le. Et parfois, même, il y a des courageux qui viennent te voir pour dire, mais je t'ai entendu prier, là, on dirait que tu m'as visé. Hein. Mais il y en a aussi qui vont utiliser ça de temps en temps pour, voilà, envoyer des petites piques à côté, il passe à côté de toi, il dit quelque chose. Et ça te perturbe parce que tu dis, oh, là, on dirait qu'il est au courant de quelque chose. Hein. Alors ma question c'est, est-ce que cet homme publicain entendait la prière ? Bon, on ne sait pas. Mais toujours est-il que lui, il a fait abstraction, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas intéressé. Vous savez, quand c'est comme ça, tu dis, tu prends Dieu à témoin en disant, mais Dieu, regarde, moi je viens prier, regarde comment il m'insulte. Ce n'est pas son problème. Lui, il dit, en quelque sorte, je paraphrase un peu son attitude en disant, bon, lui, il est correct. Il est bon, il n'a pas besoin de Dieu. Mais moi, Seigneur, aie pitié de moi, puisque moi je suis un homme mauvais. » Et Jésus dit, c'est celui-là qui a été justifié. En quelque sorte, c'est celui-là qui est sauvé. Bien-aimé, c'est ça notre prédication ce matin. Le pécheur sauvé. Nous lisons Luc chapitre 23. Nous allons voir encore l'histoire de deux hommes toujours. Luc chapitre 23. À partir du verset 39. Luc 23, à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, et il disait, pardon, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Bien-aimé, vous savez, il y a des promesses, hein, des promesses. Et là, c'est la plus belle promesse, plus belle parole que Dieu peut faire à un humain sur la terre. Et bien-aimé, vous savez, cette belle promesse que Dieu fait, que Jésus fait à cet humain, il le fait à un homme très religieux, qui était très pieux, qui était très sérieux, qui était adonné aux choses de Dieu. Ah non, il le fait à qui ? À un brigand ? À un malfaiteur dans cette version ? Donc, je nous laisse imaginer un peu ce qui a pu amener cet homme à être à cet endroit-là. On n'a pas les détails, mais on peut imaginer que c'était un homme qui a fait du mal. C'était un homme méchant qui a peut-être violé, qui a peut-être tué, qui a peut-être commis un casse. Et en commettant le casse, il a tué des gens. En tout cas, il a certainement fait souffrir. Ce n'était pas un enfant de cœur, comme certains disent. C'était un homme mauvais. Et cet homme reprend son ami en disant, attends, et au moins du respect pour Dieu. Nous, ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons finalement cherché. Mais cet homme, lui, n'a rien fait de mal. Alors il se tourne vers Jésus et il dit, écoute Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne, dans ton royaume. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pécheur sauvé, bien-aimé. Les humains n'iront pas en enfer parce qu'ils sont pécheurs, puisque l'antidote, la solution, c'est Jésus. Mais les humains iront en enfer parce qu'ils refusent. J'ai pris ce texte pour nous montrer l'attitude du premier malfaiteur qui s'en prend à Dieu en disant « Sauve-toi et sauve-nous. Regarde comment tu es. Tu n'as pas honte. Tu prétends être le Fils de Dieu. » Bien-aimés, vous savez, c'est l'attitude de beaucoup. Ils estiment avoir raison. Ils estiment que Dieu a tort. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde ? Pourquoi il y a des guerres ? Ben, ce que nous voulons dire ce matin, c'est que les guerres, les souffrances, sont les conséquences du péché. Nous, parenthèse, 2 Timothée 3, regardons ce que nous dit la Bible. 2 Timothée 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Donc là, ce qu'on décrit là, ce sont les conséquences du péché. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, bien-aimés, On n'a pas le temps de tout décliner. Vous savez, tous les adjectifs qui sont cités là, on n'a pas le temps. Je pense qu'on n'aurait jamais le temps de tout. Mais bien aimé, regardons autour de nous combien les humains sont insensibles. Vous savez, quelquefois dans les réseaux sociaux, il y a des... Comment ça s'appelle ça? Des études que les sociologues font parfois pour voir, ils provoquent, je ne sais pas comment dire ça, une sorte d'incident pour voir la réaction des gens, les gens qui passent, pour voir est-ce que les gens ont encore la fibre humaine pour intervenir lorsque quelqu'un se fait agresser. Mais je peux vous dire que, surtout aujourd'hui avec nos AirPods et nos... Vous savez, quand tu mets ça dans tes oreilles, ceux qui ont surtout de qualité, ça te coupe du monde. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a des détonations autour de toi, tu n'entends rien. Quand tu as ta musique, même s'il y a une voiture qui passe à toute allure, tu n'entends pas. Quand on voit son humain, il fait exprès. Non, parce que c'est une réalité. Donc, tu es coupé du monde. Et quelqu'un se fait agresser, ce n'est pas ton problème. Quelqu'un qui a un problème, c'est pas toi. Je voyais un enfant dans le métro parisien, peut-être que certains ont vu cette vidéo, qui monte dans la rame de métro et la rame se ferme. Enfin, les portes de la rame se ferment et le métro part. Alors l'enfant, ses parents sont restés sur les quais. Il panique, bien sûr, un enfant de 5 ans, 6 ans. Il se met à crier, à pleurer, mes parents. Mais je peux vous dire que les gens au métro parisien, qu'est-ce qu'ils sont stoïques. Alors là, maîtrise de soi, au niveau maîtrise de soi, ils ont 15 sur 10, quoi. Chacun est dans son téléphone, l'autre dans son journal. Vous savez pourquoi, bien-aimé? Les gens se disent, si je réagis ici, je risque d'avoir des problèmes. Alors, je préfère m'occuper déjà de moi. Ça sera assez. Mais bien-aimé, l'enfant qui pleure, mes parents sont restés. Et il y a une dame, finalement, qui voit que personne ne réagissait, qui est venue consoler l'enfant en disant, écoute, ce qu'on va faire, ce que je vais descendre avec toi au prochain arrêt, et on va voir. Mais bien-aimé, vous savez, c'est le monde dans lequel nous sommes, les hommes sont insensibles. Je pense que vous avez vu la vidéo de cette jeune de 13 ans qui se fait tabasser par ses copines. Vous savez, j'ai vu la vidéo hier, j'avais des larmes aux yeux. Quelle méchanceté! Donc, guet-apens, elles sont quatre, elles tirent les cheveux, elles mettent des coups de genoux. L'autre qui est là, excusez-moi, je suis désolé. Mais bien-aimé, mais où est-ce que... Vous savez, je parle, j'ai des frissons. Mais où est le monde? L'homme est devenu un animal. Une bête féroce. Et j'ai envie de dire même gloire à Dieu, la petite n'a pas été tuée. Mais combien ont été tués comme ça? Et encore ça, c'est ce qui est filmé. Hein. Vous vous rendez compte que ce genre de choses-là dans les quartiers, c'est tous les jours que ça se passe. Hein. Et donc, tu ne peux même pas parler parce que si tu parles, il y aura des représailles. Lors de voir cette vidéo-là, je dis, mais on a affaire. Et puis l'autre, elle est même voilée même. Je dis, alors là tu peux enlever même ton voile sans problème. Je dis, mais où est-ce qu'on est, bien-aimé? C'est ça que nous lisons. C'est les conséquences du péché. Mardi dernier, nous avons lu ce mardi-là, Ésaïe 59. Lors de notre étude de Béréen l'explorateur, on parlait dans Ésaïe 59, on nous décrit où Dieu dit « Ma main n'est pas courte pour agir, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. » Et on décrivait les conséquences du péché, bien-aimé. C'est ça qu'on voit dans ce monde aujourd'hui. C'est ça les conséquences du péché. Quand tu vois un papa de 65 ans, maire d'une ville, qui vous dit ne m'appelez plus monsieur, appelez-moi madame. Bon, je dis bon, ouais, il y a quelque chose qui nous a échappé là. Bon, encore lui, c'est son péché. Mais on pose la question aux gens. Bon, je pense que ce sont les gens qui ont été triés au volet, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous pensez de monsieur, de madame la maire? Ah vous savez, chacun fait comme il veut, hein, s'il est heureux comme ça. Je dis, ah là là. Ésaïe 5:20. Malheur à celui qui appelle le bien, mal. Et j'ai envie de dire même, c'est toi qui as un discours différent qu'on traite d'intolérant, de méchant. Et les lois sont faites aujourd'hui même de sorte qu'on porte, qu'on dépose même plainte contre toi. Bien-aimé, c'est ça les conséquences du péché. Et quand on voit ça, ça pose question. Ça pose question. Vous savez, je suivais des journalistes qui disaient qu'en France, nous sommes un petit peu à la traîne. Bon, excusez-moi, c'est un peu de légèreté. Par rapport aux Miss France, en France, on est un petit peu à la traîne parce que il y a eu des Miss Monde ou Univers, je ne sais plus comment ça s'appelle, transgenres qui ont été élus. Mais vous savez, celui qui parle, lui, il parle au nom du progrès. Hein. Il faut vivre avec son temps, il faut... c'est le progrès, bah oui. Bien aimé, vous savez, l'ancien président, je ne veux pas citer son nom, je ne veux pas de pub, américain, disait, vous savez, au rythme où nous allons là, on va se retrouver avec, en fait, il n'y aura plus de compétition homme, femme, vous savez, sportive, hein, athlétisme, catégorie homme. Non, il n'y aura plus, puisque lui-même, il parle hein, aux femmes en disant, mais vous qui au nom de la liberté, mais vous n'allez plus jamais gagner parce que désormais vous allez courir avec des hommes qui se changent de sexe. C'est ça que vous voulez? Vous savez, quand il a dit ça, les wokistes américains, les fédérations LGBT qui ont un grand pouvoir, ils sont montés au créneau contre cet ancien président. Mais bien aimé, mais c'est ça la réalité. C'est que demain, il n'y aura plus de catégorie. Donc tout le monde, dans le sport, il y aura des hommes qui vont faire le sport avec des femmes. Il y aura, aujourd'hui, on sait que dans les écoles, il n'y a plus de différenciation au niveau des toilettes. Garçons, filles, tous ensemble. Voilà. Et j'ai vu aux États-Unis une fille chrétienne, une jeune, qui dit à un garçon, non, tu rentres pas, ici c'est pour les... Le garçon est féminin, bien sûr. Il est allé et l'école a déposé plainte contre les parents de cette fille chrétienne. Bien-aimée, vous voyez, c'est ça les conséquences du péché. Et je parle de ça pourquoi? Puisque notre thème c'est pécheurs sauvés. Je parle de ça pour dire, vous savez, c'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 59. Dieu voit l'état du monde et on nous dit quoi? Alors son bras lui vient en aide. Lorsque Dieu voit la situation du monde, il dit, je ne peux pas laisser les hommes comme ça. Je vais donner une solution. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis que les hommes n'iront pas en enfer à cause du péché, puisque le péché tue l'homme, fait du mal à l'homme. Mais Jésus est venu porter le péché de l'homme sur lui. C'est ça. Les hommes seront condamnés, comme on a lu dans Jean 3, puisqu'ils ont refusé la solution de Dieu. C'est ça, bien-aimés. Lisons Luc chapitre 19. On a dit qu'on allait prendre quelques exemples de pécheurs qui ont été sauvés. Verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, Luc 19, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, pardon, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Bien-aimé, c'est ça la mission de Jésus, bien-aimé. C'est ça la mission de Jésus. Zachée, un homme pécheur, un publicain qui était chargé de récolter les impôts à la faveur des Romains qui régissaient le peuple. Et cet homme était malhonnête, connu par tous. Et à sa grande surprise, Jésus s'invite chez lui. Et ayant Jésus en face, vous savez, Dieu aime l'homme et Dieu veut le sauver. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens bons, puisque les gens bons n'ont pas besoin d'être sauvés, puisqu'ils sont bons. C'est ce que nous lisons là. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, bien-aimés. C'est ça, Jésus. Peut-être que tu es là, ou peut-être que tu nous écoutes, tu te dis, mais pourquoi Jésus? Pourquoi le christianisme? Pourquoi pas l'islam? Pourquoi pas... Là, nous avons notre Seigneur qui ne vient pas chercher des gens bons, des gens corrects. Il vient chercher ceux qui se reconnaissent perdus et qui acceptent la main tendue de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Cet homme était un homme pécheur. Les gens sont même choqués de ce que Jésus entre dans sa maison. Mais vous savez, l'amour de Dieu, comme le chant dit, hein, il est tellement grand, tellement profond, qu'il peut atteindre même dans l'abîme, dans le noir, dans les ténèbres les plus épaisses. L'amour de Dieu est tellement grand que les parchemins ne peuvent pas suffire pour pouvoir les décrire, bien-aimés. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est grand. Et il se manifeste à tous. Cet homme aurait pu se dire, mais c'est trop tard pour moi. En plus, regarde comment tous les autres qui sont à côté de moi me traitent de pécheur. Je pense que les relations n'étaient pas toujours au beau fixe avec les voisins. Vous savez comment c'est comme ça. Les relations n'étaient pas toujours tranquilles. Et ça le dérangeait. Et vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça qui, il est dans le mal, dans le péché, mais il sait au fond de lui que ce n'est pas bien. Mais il attend une main tendue. Et au lieu de la main tendue, il va tomber sur des gens qui vont dire, oh là là, mais toi, ton cas, en tout cas, ton cas, il est grave. Hein. Ton cas est difficile. Hein. Bien-aimé, parfois même dans les milieux chrétiens, vous savez, j'ai regardé une vidéo d'un frère qui parlait. Il parlait de l'assemblée où ils sont. Hein. Il dit, vous savez, l'assemblée où nous sommes ici, nous sommes des hommes imparfaits qui avons besoin de la grâce de Dieu. Donc si toi tu viens ici, en pensant que tous ceux qui sont là, parce qu'il donnait une image en disant, souvent les chrétiens veulent avoir un t-shirt ou une chemise blanche, propre. Mais ce que Dieu veut, c'est un cœur blanc et propre. C'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas ta chemise ou ton t-shirt qui est propre. Puisqu'il explique que dans les interactions qu'on a les uns avec les autres, tu vas te rendre compte que lui, bon, tel frère Michel, bon, il manque de sagesse. L'autre, il s'est énervé. L'autre, il a mal parlé. Mais vous savez, quand c'est comme ça, tu veux dire, oh, ben, les chrétiens, tous des hypocrites, tous pareils, tous. Mais bien aimé. Alors le frère dit, si tu cherches des gens parfaits, alors tu t'es trompé d'endroit. Va dans une autre assemblée, tu en trouveras peut-être. Bien sûr, c'est une pointe d'ironie pour dire, bien-aimé, sur la terre, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Mais il faut prendre conscience de cela. Prendre conscience du fait que tous, nous avons un problème. et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Romains 6, 23, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais qui nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà le cadeau que Dieu nous fait, bien-aimés. Voyez cet homme, mauvais pécheur, les gens sont choqués. Jésus va chez lui, ils se disent, mais c'est pas possible. Comment il peut aller chez un homme comme ça? Et lui, il est touché du fait que Dieu s'intéresse à lui. Il dit à Jésus, à partir d'aujourd'hui, je décide de restituer tout ce que j'ai pris et de rendre 4 fois plus. Si j'ai fait tort à quelqu'un, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Bien-aimé, c'est ça notre Seigneur Jésus. Alors mon exhortation, c'est de te dire, ne te dis pas que je suis trop loin, que j'ai fait tant de mal. Vous savez, je me rappelle de l'histoire de David Berkowitz. Vous savez, David Berkowitz, c'est un jeune Américain d'origine juive qui a été adopté à New York dans les années 60-70. Et cet homme-là explique qu'il a vécu avec beaucoup de haine, beaucoup de colère en lui. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à... Vous savez, quand tu as la colère comme ça, le diable vient, il te propose des choses. Il dit, bah, regarde le monde, comment il est. Bah, comment le monde t'a déçu, tu as été abandonné par tes parents. Tu te retrouvais à être adopté par des gens qui ne sont même pas tes parents. La vie est injuste. Et vous savez, des gens vulnérables comme ça, ce sont les proies que le diable va chercher pour dire, bah, écoute, puisque le monde est méchant, puisque tu as eu une mauvaise expérience au travail, puisque on t'a mal parlé, puisque les gens sont racistes. Vous savez, quand c'est comme ça, vous savez comme on dit en français, quand tu veux noyer ton chien, tu l'accuses de rage. Hein. Le diable va toujours trouver une raison pour te bien légitimer ta colère. Quand tu es en surcharge pondérale, il va dire, bon, voilà, il y a la grossophobie. Quand tu es maigre, on va dire, allez, on est contre les maigres. Quand tu es blanc, on va dire, bah, on est contre... Il y a toujours une raison. Alors lui, il a trouvé une raison. Puisque il estime ne pas bénéficier de l'amour dont il a besoin, alors il dit qu'il a entendu une voix qui lui disait d'aller tuer des gens. Et il a eu un surnom, donc on l'appelait le fils de Sam. Donc Sam qui est un démon, qui est le diable en quelque sorte. Et donc qu'est-ce qu'il faisait? C'était à New York, dans le Bronx. Il prenait son arme, principalement les femmes. Et il a tué 6 personnes. Et bien aimé, vous savez cette histoire, que vous pouvez la retrouver sur YouTube. Hein. Elle a fait la chronique dans les années 70, puisque... Il se met la terreur. Un homme qui tue des gens, mais on ne le retrouve pas. Donc, on apprend que, ah, là, il a marqué, il a signé un nouvel acte. 3 jours après, il a tué encore quelqu'un. Il laisse un peu d'accalmie. Et c'est lui qui raconte un peu d'accalmie. Quand les gens se calment, vous savez, l'homme oublie vite. Hein. 2 semaines après, il tue encore. Ben, on se dit, oh, mais le type, il continue à agir. Bon, je l'ai fait très court. Finalement, il a été arrêté. Et il a été condamné à 300 ans de prison. Vous savez, c'est des États-Unis, hein. Il cumule. Il a été condamné et en prison, bah, il continuait, vous savez, toujours à être en colère, à être méchant. Il a été agressé par quelqu'un. Vous savez, on trouve toujours plus fort que soi. Tu penses être le caïd, mais tu vas tomber sur un qui est plus caïd que toi. Et cet homme-là, avec une gilette ou je ne sais pas, quelque chose qui coupe, l'a ouvert la gorge. Et c'est là qu'il a commencé à prendre conscience. Bon, je le fais vraiment court. Il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé de Jésus. Et il a accepté le Seigneur. Il s'est converti en prison. Vous voyez ? Bien-aimé, le chemin que cet homme a parcouru, celui qu'on appelait le fils de Sam. Et vous savez, moi, ce qui me touche dans cette histoire-là, c'est que le journaliste vient lui parler. Il devait avoir fait peut-être 20 ans. Vous vous rendez compte? Tu es en prison, tu sais que... Donc là, ma peine, c'est 300 ans de prison. Il devait avoir peut-être 35 ans, 40 ans. Donc vous imaginez un peu la perspective d'avenir, quoi. Donc tu te dis, de quoi qu'il arrive, je ne sortirai pas de prison vivant. Et le journaliste lui pose la question. Puisque là, il s'est converti. Le journaliste lui pose la question en disant... Donc il raconte sa vie en disant tout ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui l'a amené à se comporter comme ça. Et le journaliste lui dit, mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous allez sortir de cet endroit dans un cercueil? Il dit, monsieur le journaliste, sachez que moi, depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, je suis sorti de la prison. La vraie prison, ce n'est pas les barreaux, c'est le cœur. Et moi, Jésus m'a délivré. Donc même si je sors de cet endroit, dans un cercueil, ça sera mon corps, puisque moi, je suis réconcilié avec mon Créateur, qui m'a sauvé. Il dit, vous savez, les humains, quand ils viennent me voir, ils sont étonnés, puisqu'ils viennent en colère. Vous savez, les procureurs, les juges, de temps en temps, il y a des rendez-vous avec des actions sociales. Quand ces gens-là viennent, ils sont toujours sur la défensive, en se disant, mais c'est un prédateur. Mais il dit, ils sont étonnés de voir que ils ont en face d'eux quelqu'un qui leur parle de Jésus. Je prends la Bible à chaque rendez-vous. Maintenant, c'est eux qui me fuient. Et il dit, vous savez, Jésus a fait de moi le plus vil de pécheur, non seulement un homme sauvé, mais son serviteur. Et il parle au journaliste, il dit, moi aussi je vous invite à accepter Jésus-Christ dans votre vie. Il lui dit, écoute, vous savez, si Jésus a pu faire de moi ce que je suis, moi un homme mauvais, alors il peut vous transformer aussi. Bien-aimé, vous savez... Bon, alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour le journaliste, mais il a été perturbé. Bien-aimé, c'est ça que Dieu fait. Quel que soit l'état de ton péché, si tu es comme Zachée, si tu es comme le publicain, tu prends conscience que tu as un problème, tu es dans un état de repentance, tu pourras bénéficier de la grâce de Dieu et du salut de Dieu. Bien-aimé, c'est cela. Vous savez, il y a un chant que nous chantons souvent, « À Dieu seul la gloire ». Et le chant n'est pas fidèle aux paroles originales en anglais. En anglais, le deuxième couplet nous dit, je traduis en même temps dans ma Oh perfect redemption. On dit Oh perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God. Ensuite, je vais traduire la deuxième partie, the vilest offender. Donc, le plus vil des pécheurs, le pécheur le plus sale de vilest offender, who truly believe, qui croit réellement en Jésus. That moment from Jesus, à ce moment-là, il reçoit le pardon de Dieu. Bien-aimé, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Ne te laisse pas tromper par le diable qui te dit tu es encore jeune. Il faut que tu profites. Tu es encore jeune. Il faut que tu vois ceci ou cela. Bien-aimé, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Les jeunes meurent. Et la Bible nous dit dans Jean 3, 18 que nous avons lu, que celui qui ne croit pas est déjà jugé. C'est ça, bien-aimé? Donc même le pécheur le plus vil peut bénéficier de la grâce de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Vous savez, Saul de Tarse, ce qu'on appelle l'apôtre Paul, je pense que certains connaissent un petit peu son histoire, hein, ce qu'il était. Hein. Persécuteur des chrétiens. C'est lui-même qui a cautionné le meurtre d'Étienne. Vous savez, Étienne, il a été tué comment? Vous imaginez un peu mort par lapidation. Vous imaginez ce que ça fait, hein? Mort par lapidation. C'est pas mort par arme à feu ou non, lapidation. C'est-à-dire qu'on te jette, on lance sur toi des cailloux, des pierres, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui t'achève. Bien-aimé, vous voyez comment la cruauté de l'homme. Et on nous dit que Saul de Tarse respirait encore cela. Et il était fier de lui. Vous savez, comme en français on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Des fois, tu as une victoire, mais au fond de toi, tu n'es même pas content. Tu tues quelqu'un comme ça. Et en plus, cette personne dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Et je pense qu'à ce moment-là, il était déjà troublé, tourmenté au fond de lui. Jusqu'à la rencontre de Damas dans Acte 9, où Jésus lui dit, mais tu ne peux pas résister contre les aiguillons. Tu ne peux pas résister contre la pression que je te mets. Tu ne pourras pas résister. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, c'est ça notre message de ce matin. Je pense que tous comme nous sommes là, on n'a pas le CV de Paul, hein, que ce soit en termes d'acquis, de formation, pharisien, que ce soit en termes même de crime, puisqu'il tuait les chrétiens. Personne dans cette salle n'a ça, à moins qu'il y en ait, on va le dénoncer. Mais personne n'a le CV que Paul avait. Et vous vous rendez compte, c'est Paul lui-même qui nous dit dans 1 Timothée, hein, 1.15, qui nous dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est mort pour tous les dont je suis bien-aimé. Il dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Tout le monde doit entendre ça. Il dit que Jésus-Christ est mort pour tous les pécheurs. Il dit, en commençant par moi-même, je suis le premier. Bien-aimé, c'est ça notre parole de ce matin. Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes, pour sauver le pécheur, pour sauver celui qui reconnaît qu'il a le péché en lui. Quelle que soit la taille du péché, David Berkowitz a tué 6 personnes. Mais il s'est converti. Et c'est lui qui annonçait la parole en prison. C'est lui qui parlait de l'amour de Dieu. Bien-aimé, c'est ça que Dieu veut faire. Alors les hommes, les humains, hommes, femmes, qui refusent l'offre de Dieu, alors ils feront face au jugement. Réfléchis, bien-aimé, toi qui es là. Le Seigneur n'est pas venu pour les bons. Et les bons, il n'y en a même pas. Personne n'est bon. Jésus l'a dit à l'homme riche, hein, dans Luc 18. Il dit non, il n'y a que Dieu qui est bon. Personne n'est bon. Mais à cause de la justice qui est en Jésus-Christ, Dieu nous considère bons désormais. Dieu ne nous regarde pas en fonction de ce que nous avons fait. Il regarde à ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Voilà pourquoi Jésus a pu dire à cette femme, dans Jean au chapitre 8, « Va, moi non plus je ne te condamne pas. » Voilà pourquoi Jésus-Christ a pu dire à cet homme, vous savez dans Marc 2, qui est ramené par ses amis, il passe par le toit, Jésus regarde cet homme qui est alité. Qu'est-ce que Jésus lui dit? « Tes péchés sont pardonnés. » Et les gens disent, oh là là, mais pour qui il se prend? Pour pardonner les péchés. Il dit, oh là là, mais vous êtes tellement mauvais. Il dit, pour voir, vous montrer que j'ai le pouvoir, non seulement de pardonner les péchés, je peux aussi guérir. Il dit, allez, lève-toi maintenant et rentre chez toi. Bien-aimé, c'est ça notre Seigneur. Vous savez, un jour dans Luc 7, Jésus parle avec un pharisien, Simon, lorsque une femme de mauvaise vie vient. Elle essuie ses cheveux au pied de Jésus. Simon est assis là, il se dit, il laisse cette femme le toucher. Comment il peut la laisser? Jésus, vous savez, Jésus est Dieu. Jésus connaît les pensées de Simon. Il lui dit, écoute Simon, tu vois, moi je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas accueilli comme cette femme. Il dit, cette femme, ce qu'elle fait là, elle aime beaucoup, puisque elle réalise que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Voilà pourquoi elle fait cela. Bien-aimé, c'est ça le message de l'Évangile. Ne nous laissons pas avoir par le diable qui te dit, tu es allé trop loin. Alors enfonce-toi, de toutes les façons, il n'y a plus rien à attendre. Bien-aimé, c'est faux. Jésus est prêt. Il veut sauver. Quelquefois, on a l'impression que les équations ne sont pas équilibrées. Mais, bien-aimé, c'est ça la grâce de Dieu. Vous savez, je finis là. C'est l'histoire des grands-parents qui avaient leur petite fille, qu'ils aimaient beaucoup, qu'ils avaient en charge. Et cette petite fille tombe dans les mains d'un malfaiteur qui abuse d'elle et qui la tue. Mais non seulement cela, il va encore plus loin dans sa cruauté, il la découpe. Alors vous vous imaginez la souffrance des grands-parents. Et ces grands-parents-là étaient chrétiens. Et ils devaient avoir affaire à cet homme lors du tribunal du jugement. Alors ils disent, quoi qu'il arrive, il nous a enlevé notre petite fille. Jamais nous n'allons pardonner. Et le jour du procès, le brigand ou le malfaiteur, autrefois, qui s'est converti en prison, envoie une lettre aux grands-parents en disant « Je vous demande pardon pour ce que j'ai fait. Je sais que je ne suis même pas digne d'attendre un pardon de votre part. Mais moi, je le fais parce que la Bible me le recommande. Mais je n'attends pas de votre part que vous me pardonniez. Moi, je veux être en paix avec Dieu et avec moi-même. Je vous demande pardon. » Vous savez, cette histoire-là, vous savez, il y a des histoires comme ça qui sont difficiles, hein, humainement. Alors, la question, je crois qu'on avait fait une étude biblique il y a 15 ans en arrière sur cette question-là. Voilà un homme qui a fait du mal, qui s'est repenti, qui a accepté Jésus. Et voilà des grands-parents qui, toute leur vie, ont été chrétiens, qui refusent de pardonner parce que la douleur, attention, elle est immense, elle est incommensurable. Mais bien aimé, la question que je nous pose entre les deux, l'attitude de deux, qui est sauvé devant Dieu? Il y a un courageux qui peut répondre. Hein? C'est l'assassin. Bien aimé, même quand on dit l'assassin, là, la bouche, là, c'est dur. Hein? Mais bien aimé, c'est ça la grâce de Dieu? Puisque les grands-parents ont dit non, nous, quoi qu'il arrive, nous on refuse de pardonner. Après, je ne connais pas, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont ravisés après. Mais je comprends que la douleur est difficile. Je comprends. C'est trop dur. Mais bien aimé, vous savez, être confronté à la justice de Dieu, c'est accepter aussi sa souveraineté. Parce que on se dit c'est trop facile. Attends, il suffit d'accepter Jésus et puis on est. Vous savez, quand on discute avec les musulmans parfois, hein, je dis non, moi je fais ci, moi je vais à la Mecque, moi je fais ci, moi je fais ci. Je dis oui, mais moi il suffit d'accepter. Je parlais avec un. Il dit ah bon, c'est comme ça être chrétien. Waouh, mais c'est trop facile. Je dis bah oui, mais parce que Dieu est bon, Dieu nous aime, il a facilité les choses. C'est facile pour nous, mais ça a été difficile puisque Jésus a donné sa vie. Jésus s'est donné à la croix pour nous. Et nous passons par Jésus. pour bénéficier de la grâce. Il dit, ah non, ça c'est trop facile, attends, le bon sens c'est trop facile. Et à un moment, il n'avait plus d'arguments, il dit, écoute, même si tu as raison, moi je ne me convertirai pas. Il dit, bah, déjà, c'est déjà bien que tu commences à dire même si. Mais bien aimé, c'est ça la grâce de Dieu. Le vil, le plus vil de pécheur peut être sauvé lorsqu'il accepte Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé. Il est écrit dans 1 Jean 3:20 que même si notre cœur, nous condamne, Dieu qui connaît toutes choses est plus grand que notre... Bien-aimé, vous savez, quand le cœur commence à te condamner, ah, je peux te dire que là, tu as beau te cacher partout où tu veux comme Jonas, au fond du bateau. Ah, vous savez, quand le cœur te condamne, la conscience te condamne, ah, tu peux tromper les humains. Tu peux tromper les humains, mais tu ne peux pas tromper ton cœur. Quand tu es là comme ça, là, bien, ton cœur dit « escroc ». Quand ton cœur te parle, tu sais, bien-aimé. Tu peux tromper, mais quand ton cœur commence à battre au fond de toi, là, tu commences à bégayer. Tu commences à bégayer. Parfois, tes yeux disent quelque chose, mais ta bouche dit autre chose. Vous savez, les profilers dans les aéroports, les douanes, c'est ça leur travail. Hein. Monsieur, quelque chose à déclarer ? Non. Mais comme ils ont l'habitude. Monsieur, rapprochez-moi un peu. Non, vous n'avez rien à déclarer ? Non. Okay. Bon, attendez là. Parce que comme ils ont l'habitude, ils savent que non, le type là, son attitude n'est pas très claire. Alors je ne dis pas qu'ils ont toujours raison, mais dans la majorité des cas, ils vont finir par trouver quelque chose. C'est ça, bien-aimé. Et vous imaginez, ça, ce sont des humains. Alors, Dieu alors. On dit, si notre cœur nous condamne, ton cœur te dit, ah, toi tu es trop fier. Ah, toi tu es méchant. Toi, tu es jaloux. Vous savez, parfois, la jalousie vient. Hein. Tu regardes un frère, ah, il a acheté encore une nouvelle voiture. Moi, je suis toujours à pied. Ah. En plus, il vient me raconter son témoignage. Vous savez, quand c'est comme ça, oh, tu sais ce que Dieu a fait? Oh là 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 là, Dieu a agi. Dieu m'a béni. Hé, hey, là 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 là, toi, tu es déjà là dans ton cœur, tu dis, ah. Mais ça, lui, il ne voit pas. Tu dis, gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu, mon frère. Mais dans le cœur, là, le cœur est serré. Mais bien aimé, Dieu voit ça. Et ton cœur lui-même est témoin de ton état. Mais la Bible nous dit que Dieu qui sait toutes choses est plus grand que notre cœur, qui nous condamne, qui nous accuse. C'est ça, bien aimé. Parfois, on fait un effort, on dit, bon, lui, je vais essayer d'être sympa avec lui. Mais dans ton cœur, tu sais que s'il dit quelque chose, et souvent quand c'est comme ça, il arrive, petite pique. Alors là, tu te dis, mais pourtant j'avais décidé de... Bien-aimé, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que cela. Dieu veut nous sauver, bien-aimé, en Jésus-Christ. Peut-être que tu es déjà converti, mais la prédication d'aujourd'hui, c'est de te rappeler que tu as besoin de la grâce du Seigneur. Tu as besoin de Dieu pour être délivré. Tu as besoin de Dieu pour pardonner. Tu as besoin de Dieu pour aimer. Oui, mais je suis déjà chrétien comme le publicain, comme le pharisien. Oui, mais non. À cause du manque de pardon, tu risques, bien-aimé, de rater l'enlèvement. À cause du manque d'amour, puisqu'on m'a fait trop de mal. Vous savez, comme les grands-parents qui estiment qu'on leur a fait trop de mal. C'est vrai, d'ailleurs. Mais à cause de cela, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ? Dieu, mais c'est injuste, c'est trop facile pour lui. Ah bah, vous savez, le brigand à la croix, c'était trop facile. Hein. Il a suffi qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Et le Seigneur nous parle aujourd'hui. Quel que soit ton état de péché, Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Quel que soit ton état d'attachement au monde, Jésus a le pouvoir de te délivrer. C'est ça, bien-aimé, notre thème de ce matin. Pécheur sauvé. Alors ne passons pas à côté de l'offre de Dieu qui nous parle ce matin. Ne passons pas à côté de l'offre de Dieu. La grâce, comme l'apôtre dit, mais comment fouler aux pieds une telle grâce, un tel cadeau qui nous est offert si gracieusement, alors que nous ne le méritons pas. Seigneur, nous prions pour te bénir et te glorifier, pour ta parole de ce matin, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons le péché en nous qui, Seigneur, nous éloigne de toi, Seigneur. Et Seigneur, nous savons aussi que Jésus-Christ est venu à la croix, sur la terre, est mort à la croix pour porter nos péchés et nous délivrer. Seigneur, nous ne voulons pas mépriser, Seigneur, l'œuvre qui a été accomplie à la croix pour nous sauver. Nous prions pour que tu nous aides à accepter, Seigneur, notre état, mais accepter surtout, Seigneur, la grâce que tu nous accordes, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous rappelle que quel que soit, Seigneur, l'état de notre péché, Jésus, tu as donné ta vie pour nous sauver. Tu as fait de nous des êtres nouveaux. Voilà pourquoi il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau, Seigneur. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui nous écoutent, qui hésitent à s'engager, Seigneur. Tous ceux qui nous écoutent, qui n'osent pas, Seigneur, faire le pas de te suivre. Nous prions pour que ton esprit puisse te convaincre, Seigneur, aujourd'hui. Merci d'agir et de te manifester. Au nom de Jésus-Christ. Amen.